7h, 8h de l'après-midi.
La voix des municipales. Les 15 et 22 mars 2026, c'est les élections municipales à Rouen. La radio HDR reçoit les candidats à cette élection. Autour des thèmes du logement, de la jeunesse, des écoles, du monde associatif et de la tranquillité publique, la voix des municipales, c'est tous les jeudis à 18h jusqu'aux élections sur les ondes du mix des cultures. La voix des municipales. Marine Caron. Horizon.
Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission La Voix des Municipales. Ravi de vous retrouver de 18h à 19h pour votre émission consacrée aux élections municipales qui auront lieu le 15 et 22 mars. Comme vous le savez, à chaque émission, on reçoit un candidat ou une candidate. Et aujourd'hui, Naïm, avec vous, vous recevez Marine Caron.
Et oui, tout à fait, Inès. Aujourd'hui, on reçoit Madame Marine Caron. Bonjour, Marine.
Bonjour, Naïm.
Donc aujourd'hui, on vous reçoit dans le cadre des municipales. Pouvez-vous vous présenter et nous dire pourquoi vous vous présentez à la ville de Rouen ?
Eh bien, j'ai 35 ans, je suis maman de 3 enfants, de 3 petits-enfants. Je suis née à Rouen, j'ai grandi ici, j'ai fait toute ma scolarité. Et je me suis engagée un peu par hasard dans la vie politique. Ça fait une dizaine d'années que je suis engagée maintenant. Le sens de l'engagement, c'est ma grand-mère qui me l'a transmis parce que ma grand-mère, elle était particulièrement engagée dans le milieu associatif rouennais. Donc moi, je l'ai accompagnée faire des maraudes, préparer des colis alimentaires, servir des repas chauds, partager un café avec les personnes dans la rue. Et elle m'a transmis ce sens de l'engagement qui, moi, au gré d'une rencontre un peu fortuite avec, à l'époque, une sénatrice, m'a donné envie de m'engager. Et j'ai eu cette chance, ou en tout cas cette opportunité, à 24 ans d'être élue au département de la Seine-Maritime, et depuis j'ai cheminé. Donc j'ai cheminé dans mon parcours, j'ai appris à connaître la ville, pas par cœur, mais en tout cas de manière très très large, à aimer ses quartiers, à aimer ses habitants. Moi, je suis une fille du terrain, j'aime rencontrer, j'aime échanger, et puis forcément quand on aime sa ville, et ben on a envie du meilleur pour sa ville. Et donc j'ai fait le choix d'être candidate pour ces élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Pas n'importe quelle candidature, une candidature de rassemblement, parce que ça fait 18 ans que c'est la même équipe aux responsabilités à la ville de Rouen. Et moi, je considère qu'après 18 ans, on a besoin d'une respiration démocratique, on a besoin de changement. Et ce changement, je veux l'incarner. Alors oui, moi, je porte un rassemblement du centre et de la droite, mais aussi avec des sociodémocrates et beaucoup, beaucoup de citoyens qui s'engagent, qui viennent des quartiers. Il y en a ici, sur les Hauts-de-Rouen, qui font partie de l'équipe, justement. Mais dans tous les quartiers, Grammont, les quartiers ouest, Jardin des Plantes, également des Croisilles, Vallon-Suisse, enfin, des gens qui viennent de partout, qui aiment leur ville, qui ont envie de s'engager parce qu'on a deux choses en commun, le respect des valeurs républicaines et l'amour de notre ville. Et ça, c'est ce qui nous guide concrètement. On a travaillé depuis maintenant quasiment un an à construire un projet à l'écoute des habitants, à l'écoute des quartiers. On a ce projet, on l'a présenté le 24 janvier et puis on a même décliné dans des propositions par quartier. Et je pense que c'est hyper important parce que on est dans une élection où, à force de faire des annonces à coups de millions d'euros, les gens ils savent pas où on va. Alors que l'enjeu premier dans une élection municipale, c'est le quotidien, la proximité, c'est la qualité de vie, c'est ce qui fait vivre l'intégralité d'une ville et l'ensemble de ses quartiers. Donc vraiment, le quotidien, c'est notre priorité aujourd'hui.
Et bien justement, nous allons commencer par parler des quartiers et en particularité de vos propositions concernant le monde associatif, qui est un monde où beaucoup de bénévoles, beaucoup de personnes s'investissent, qu'ils soient professionnels ou bénévoles. Mais pour commencer, quelles sont vos principales propositions et si vous pouvez les décliner de façon compréhensive pour nos auditeurs?
Déjà, la première des choses, c'est savoir que le changement, ça ne veut pas dire tout arrêter. Parce que j'entends parfois des gens laisser planer la rumeur comme quoi si Marine Caron était élue maire demain, les associations n'auraient plus de subventions. Je tiens à dire que c'est faux. C'est complètement faux. C'est très facile d'avoir des discours un peu populistes comme ça, mais au contraire, les associations, elles sont le cœur d'une ville aujourd'hui. On a besoin des acteurs associatifs, on a besoin de continuer à les soutenir et je continuerai de les soutenir. Parce que les associations, elles œuvrent dans plein de domaines. Elles œuvrent pour la citoyenneté, pour la solidarité, pour la culture, pour la jeunesse, pour le sport aussi. Et sans l'intégralité de ces associations qui font le cœur vivant d'une ville, eh bien, il y a plein de projets qu'on ne pourrait pas porter. Donc, bien entendu, on continue de soutenir les associations et même on va plus loin dans le soutien aux associations. Moi, je fais un choix qui est assez clair, de dire que la ville de Rouen, elle a un budget municipal qui doit financer les associations locales. Donc, en effet, on finance des associations aujourd'hui qui sont nationales. Je considère que ce n'est pas la priorité d'une ville. Et ces fonds-là, ben, moi, je vais les remettre pour des associations locales, pour continuer à les soutenir. Ça, c'est un exemple. Ensuite, vous en avez parlé à l'instant, Naïm, il y a la question du bénévolat. On a une crise du bénévolat, les gens ont de plus en plus de mal à s'engager, c'est compliqué de donner aux gens l'envie de d'y passer du temps. Donc nous, ce qu'on veut faire d'abord, c'est un, et on l'a évoqué, c'est créer un passeport de l'engagement pour les jeunes qui s'engagent, pour pouvoir récompenser et valoriser leur engagement. Le valoriser parce que sur un CV, dans l'insertion professionnelle, c'est important de montrer qu'on a un engagement bénévole. Ça fait un plus. Et puis aussi, le récompenser d'une certaine manière à travers des places offertes par la ville pour aller voir des matchs de sport, des entrées pour des animations culturelles, enfin plein de choses comme ça qui vont valoriser l'engagement. Et à l'échelle des associations de manière plus générale, d'avoir une soirée de l'engagement, une soirée du bénévolat où on remet des prix et on félicite dans les différentes associations sur tous les quartiers l'engagement bénévole en mettant en honneur, à l'honneur, des hommes et des femmes qui ont 10, 15, 20, 30 ans d'engagement et qui parfois même y ont consacré toute leur vie. Ça, c'est essentiel aujourd'hui. La pérennité des subventions, la reconnaissance de l'engagement des jeunes et également féliciter les bénévoles dans l'ensemble des associations.
Et comment éviter justement les inégalités entre les grandes associations qui sont reconnues, qui sont installées depuis longtemps à Rouen, et les petites associations ou les futures petites associations qui souhaiteraient justement investir des sujets d'éducation, de solidarité, d'entraide?
Il y a un vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, il y a parfois une démultiplication des structures associatives et tout le monde a envie de créer son association. Moi, si je vois les choses pour qu'elles fonctionnent bien, il faut plutôt, selon moi, avoir une mission qui est celle d'accompagner au maximum les associations, mais surtout de dire, quand il y en a une qui existe, mutualisons les moyens ensemble, plutôt que de les répartir et les dispatcher. Et ça, c'est extrêmement important aussi, de pouvoir avoir un message qui est attentif à ceux qui veulent porter une association, mais de leur expliquer comment le faire. Et donc, il faut avoir aussi un peu un guichet qui accompagne les associations. Moi, j'en ai rencontré dans les quartiers qui me disent là, on a fait une demande de subvention, on l'a pas eu, mais l'autre à côté, elle l'a eu, pourquoi, et compagnie. Et je pense que quand une association se crée, ce qui peut être bien aussi, et ça, on l'a décidé et on a eu l'idée en parlant avec des acteurs associatifs, c'est de dire, on fait une audition de présentation du projet. Pas uniquement un dossier papier qu'on envoie par la poste, mais on vient expliquer le projet. Parce que l'humain, c'est important. La manière dont on dit les choses, c'est important. Et donc ça, c'est une manière de valoriser aussi le travail qui est fait par une association.
Oui, c'est reconnaître l'activité des personnes qui veulent s'engager dans un domaine associatif. C'est reconnaître aussi leur capacité à défendre les écrits qu'on peut faire, ou ça peut être compliqué, parce que souvent, créer une association et le travail administratif de gérer une association ou le début de demander des subventions, on ne le connaît pas forcément.
Alors ça, c'est compliqué. Et ça, dans nos propositions, on simplifie les démarches administratives des associations. Le nombre d'associations qui font des demandes de subventions, en plus, qui sont différentes entre la ville, le département, la région, l'État et compagnie, ça fait des dossiers, des dossiers, des dossiers, des papiers, des papiers, des papiers. Les gens n'en peuvent plus. Donc, il faut essayer de rationaliser ça, de le simplifier pour que les démarches de demande de subvention, notamment, ne soient pas déboulées au pied des acteurs associatifs et des bénévoles, mais ce soient vraiment des choses qui soient facilitées. Donc, un portail unique, par exemple, pour les associations qui, de manière intelligente, soient aussi mutualisées avec le département ou les autres collectivités, c'est important.
Le mix de toutes les cultures. 99.1.
Passons maintenant au thème de la parentalité. Alors, pour commencer ce thème, j'ai envie de vous parler de parentalité, mais dans le sens où vous avez une proposition assez forte, assez ambitieuse, la maison des 1000 premiers jours. Comment vous la voyez ?
Alors, la parentalité, moi, c'est un sujet qui est particulièrement important parce que ça concerne toutes les familles. C'est pas la parentalité, d'ailleurs, c'est les parentalités. Parce que les familles, qu'elles soient traditionnelles, recomposées, monoparentales, elles font face toutes à des difficultés, à des problématiques, à des questionnements qui sont différents. Donc nous, dans une de nos propositions fortes, c'est de créer la maison des 1000 premiers jours et des parentalités. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'accompagner les enfants sur leurs 3 premières années de vie, même si on sait que c'est à ce moment-là qu'on forge chez l'enfant beaucoup de ce qu'il va devenir plus tard, mais aussi des parentalités, parce que des parents, une maman solo, un papa, quand ils ont un enfant de 9 ans, 10 ans, 12 ans, aussi, ils peuvent être aussi un peu perdus face aux évolutions de l'adolescence. On vit dans un monde qui est ultra connecté, qui c'était pas le cas il y a 20 ans. Aujourd'hui, les écrans, ils arrivent dans la vie des enfants dès le plus jeune âge, même si on essaye de limiter au maximum. Malheureusement, c'est quand même là. Et donc, on a besoin, avec cette maison des 1000 premiers jours et des parentalités, de pouvoir accompagner toutes les familles, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur structure. Ça, c'est un lieu pour guider, c'est un lieu pour accompagner, c'est un lieu aussi pour souffler, c'est un lieu de répit, c'est un lieu d'activité, c'est un lieu où on sait vers quelle association se tourner. C'est un lieu pour simplifier la vie des familles. Parce que trop souvent. Il y a eu un peu le petit scandale avec la SNCF des wagons sans enfants. Mais trop souvent, on dit on veut plus d'enfants dans ce monde aujourd'hui. Mais pourtant, les enfants, c'est notre richesse. Les enfants, c'est les citoyens de demain. Et si on les aide pas à devenir des bons citoyens dans les quartiers, mais partout, n'importe où, et ben dans ce cas-là, on va les perdre. Et moi, j'en ai rencontré des jeunes ici, notamment sur les Hauts-de-Rouen, il y a encore quelques semaines, qui me disaient il y a 20 ans, on avait un lieu, on était accueillis, on avait un accompagnement, on travaillait, on faisait des petits jobs, et puis après, on avait la possibilité, enfin des petites missions, c'était pas payé, mais on faisait une mission un peu d'intérêt général, et puis après, à la fin de l'année, il y avait un voyage à l'étranger ou un voyage en France. Ça n'existe plus aujourd'hui. Donc même ces jeunes-là, ils sont perdus, et quand ils sont perdus, ben qu'est-ce qu'ils font? Ben ils traînent, ils zonent, et puis ils finissent par avoir des mauvaises fréquentations, et ça, on n'en veut pas pour nos enfants. Aucune famille ne veut ça pour ses enfants.
Ce que j'entends par vos propositions, c'est que la parentalité n'est pas justement dédiée qu'au monde de la petite enfance. Vous comptez
exactement.
Plutôt accompagner
exactement.
Au fil de l'évolution de l'enfant.
La parentalité, c'est juste qu'elle l'émancipation et donc la majorité d'un enfant. Et les parents, ils rencontrent des difficultés à tous les âges. Et donc un parent, il peut rencontrer des difficultés quand son enfant a 16 ans parce qu'il est victime de harcèlement et qu'il sent que son enfant, ça va pas bien. Il peut avoir besoin de soutien quand son enfant a 12 ans, il se met à faire le guet sur un point de deal. Oui, ça arrive. Et donc tout ça, il y a besoin d'accompagner les familles, il y a besoin d'accompagner les enfants et les jeunes aussi. Et ça, c'est peut-être un autre sujet dont on va parler après, mais c'est un sujet qui est essentiel aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait pour nos jeunes.
Et continuons sur le thème de la parentalité, dont j'avais envie d'associer aussi le logement, parce que de nos jours, le logement est cher, le logement des fois est insalubre. Ici, sur les Hauts-de-Rouen ou dans d'autres quartiers de Rouen, on trouve des cafards, des rats au bord des immeubles. Quelles sont vos propositions sur ce domaine et qu'est-ce que le maire de Rouen ou la maire de Rouen, on va le féminiser, peut faire?
Il y a un vrai sujet sur le logement social dans un premier temps. À l'échelle des compétences de la ville, c'est Rouen Habitat. Moi j'ai eu exactement ce que vous décrivez là, c'est-à-dire des familles qui m'ont dit on a même des rats sur nos balcons, qui nous disent il y a de la moisissure sur le plafond, les parties communes elles sont sales en permanence, le gardien joue pas totalement son rôle de paix sociale et de cohésion, donc c'est compliqué, le chauffage il est pas adéquat, enfin il fonctionne pas et donc du coup l'appartement il est sous-chauffé. J'ai une mère de famille qui m'a même dit ma fille a attrapé une infection pulmonaire, c'est pas possible tout ça. Donc nous ce qu'on propose, c'est un grand plan de rénovation des logements Rouen Habitat. La ville, elle a pris du retard, très clairement, il faut le dire. Il y a des logements qui n'ont pas été rénovés depuis plus de 50 ans, c'est pas possible. Donc la ville, elle doit être particulièrement sévère vis-à-vis de ses propres logements. Il y en a plus d'une centaine à l'échelle de la ville de Rouen. Elle doit aussi être encore plus vigilante par rapport aux autres bailleurs sociaux, c'est-à-dire imposer des règles et que ces règles soient respectées, des règles de contrôle sanitaire, de contrôle d'habitat, tout le reste, c'est essentiel. Et puis, il y a les bailleurs privés qui aussi profitent un peu des conditions des gens, c'est-à-dire de la fragilité, de la nécessité de trouver un toit sur sa tête, et donc des gens qui finissent par louer des trucs qui ne sont pas salubres. Et ça, c'est pas normal, et ça, faut agir aussi. Il y a le permis de louer qui existe dans une partie de la ville de Rouen aujourd'hui, pas partout, et il faut pouvoir l'élargir, mais aussi mieux le cadrer, parce que parfois, il est très contraignant pour ceux qui respectent la loi et les règles, et il n'est pas du tout pour ceux qui passent au travers des mailles du filet, ça, c'est pas normal.
Pour avoir eu des témoignages d'habitants, en général, quand ils font de la location de logement auprès même de bailleurs sociaux en dehors de Rouen Habitat, ils louent le logement, mais c'est souvent, en vérité, on vous repeint les murs.
Ouais. C'est cache-misère.
On fait un cache-misère. Et en fait, comme vous avez dit dans vos propos, c'est que le chauffage, il n'y est pas.
La ventilation non plus, la propreté.
Enfin bref, ouais. L'asthme se déclenche auprès des enfants, etc. etc. Donc, moi, ce que j'entends, et je suis là aussi pour relayer la parole des habitants, c'est que des fois, ils sont fatigués.
Oui.
Et ils ont une forme de honte, en fait, de dire mais si je me plains, on va m'accuser comme quoi que j'entends déjà mal mon
ou alors ils se disent quand je dis quelque chose il se passe rien en fait. Et donc là il faut avoir un vrai suivi, il faut avoir un bureau municipal de suivi des signalements faits par les habitants pour pouvoir faire une remontée sur ces problématiques de logement insalubre et avoir des vraies répercussions sur les obligations de suivi des bailleurs sociaux qui sont pas Rouen Habitat mais aussi des bailleurs privés. Et donc ça c'est un bureau municipal qui doit être un lieu d'accueil et d'écoute de l'ensemble des habitants qui font des remontées concrètes parce que le maire il a aussi l'obligation dans certains cas, de dire là, je diligente une intervention pour contrôler l'aspect sanitaire de tel ou tel logement. Et aujourd'hui, ça ne se fait pas assez.
Exactement. Et on peut dire aussi que... Mais après, au niveau de la mixité sociale, vous pensez qu'il en faut dans les quartiers? Quand je dis mixité sociale, je ne parle pas forcément de personnes du même job, mais peut-être aussi... permettent à des personnes issues des quartiers populaires, peut-être d'aller dans le centre-ville, peut-être d'aller dans le quartier Lucinine, peut-être aussi pour pouvoir aussi redécouvrir du lien, en fait.
Mais moi, c'est un sujet, en 6 ans de mandat à la ville de Rouen, notamment avec Ayette Zerghi, qui est élue à mes côtés, on n'a pas arrêté de se battre sur ce sujet, de dire que les QPV, donc les quartiers prioritaires, fallait pas qu'ils se limitent à leurs propres frontières. Ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est que la mixité, ce soit aussi que les jeunes, mais les familles qui ont toujours grandi dans les quartiers tels que les Hauts-de-Rouen ou Gramont, ils aient l'opportunité d'en sortir et d'aller se faire une expérience et même d'aller vivre ailleurs plus tard, peut-être. Moi, je prends un exemple, parce que je pense que ça tout passe par l'enfance à un moment donné. Il y a un sujet qui est extrêmement intéressant et qui ne se fait pas aujourd'hui. Pourquoi est-ce que nos écoles maternelles, élémentaires, elles ne sont pas jumelées les unes avec les autres au cœur de la ville de Rouen? Et qu'une école ici, sur les Hauts-de-Rouen, on la jumelle avec une école dans les quartiers ouest. Et donc, ça crée des échanges entre les enfants. Et donc, ça leur permet de découvrir ce qui se passe ailleurs, d'aller dans l'école un jour ou deux dans l'année et ensuite de comprendre comment ça fonctionne et de sortir de leur cadre où on est parfois un peu trop enfermé dans un quartier.
Ce qu'on a pu aussi entendre aussi, c'est que justement, les jeunes, par exemple, des Hauts-de-Rouen, les enfants sont, entre guillemets, issus du même monde, des mêmes personnes, des mêmes familles, et les gens réclament un peu plus de mixité sociale. C'est malheureux de le dire encore en 2026, mais c'est le cas. Les gens réclament aussi, moi je me souviens que dans les années 90, un policier habitait dans l'immeuble, une infirmière, enfin, le monde divers et varié qu'on a connu quand on était jeune.
Et on aurait besoin de retrouver cette époque-là, mais aujourd'hui, on va pas se mentir. Quand vous parlez avec des habitants qui habitent depuis longtemps sur les Hauts-de-Rouen, par exemple, ils vous disent qu'ils aiment leur quartier parce que c'est paisible, c'est paisible. Je vais y revenir après, on en parlera un peu, tout ce qui est sécurité, tranquillité, mais ils aiment leur quartier parce qu'ils ont un environnement qui leur plaît. Sauf que le sentiment qu'ils ont aujourd'hui, majoritairement, c'est un, d'être abandonné, d'avoir eu plein de belles promesses pour pas grand-chose derrière, et que les policiers qui reviennent tous les 6 ans au moment des élections. Sauf que ça fonctionne pas comme ça. Et donc forcément, quand on entend des faits divers sur les quartiers et qu'on veut promouvoir la mixité, en réalité, quelqu'un à qui on propose un logement sur les Hauts-de-Rouen, en général, il va dire non. Malheureusement, il va dire non parce qu'il a une image du quartier. Et c'est ça qu'il faut réussir à faire changer. C'est l'image que les gens en ont à l'extérieur. Parce que quand vous venez à l'intérieur, nous, les gens de l'équipe qui habitent dans le quartier, ils disent ils aiment leur quartier. Alors ils reconnaissent qu'il y a des faiblesses. Il y a des trucs sur lesquels il faut travailler. Le logement, il faut travailler. La sécurité, il faut quand même travailler. L'accompagnement des jeunes, il faut le travailler. Et les commerces, il faut travailler. C'est les 4 points cruciaux sur lesquels il faut travailler. Mais pourtant, ils disent on a la forêt autour, on a des grands espaces, on se connaît entre voisins. Et tout ça, c'est important parce que c'est ce qui fait la richesse d'un quartier. Pour autant, le constat, c'est que les gens, aujourd'hui, quand on leur dit prenez un logement sur les Hauts-de-Rouen ou sur Gramont, en général, ils vont dire je vais chercher ailleurs. Et c'est pas normal.
Merci pour votre réponse sur cette thématique. Nous allons maintenant passer, justement, vous l'avez dit, à la tranquillité publique.
Le mix de toutes les cultures. 99.1.
Quand on parle de tranquillité publique, on fait souvent référence. Alors, certains vous diront que, vu que vous êtes sur le centre droit, ils vous diront que vous avez une vision sécuritaire. D'autres à gauche diront que, non, il faudrait plus de médiateurs et d'éducateurs de rue. Quelle est pour vous vos réponses sur le sujet de la tranquillité publique dans les quartiers et pour la ville?
Il n'y a pas une réponse, il y a plusieurs réponses. Et d'abord, la réponse, c'est pas de dire il faut que des policiers, que des caméras ou que de la médiation, c'est trouver le bon équilibre. Aujourd'hui, la sécurité, c'est pas un sujet tabou, ça appartient à aucun camp, c'est notre bien le plus précieux, ça nous concerne nous, ça concerne nos enfants, ça concerne nos aînés, ça concerne les seniors, les actifs qui travaillent en horaire décalé. Donc c'est un sujet qui est un sujet essentiel. Trop souvent, on essaye de faire croire que c'est un sujet qui appartient au camp du tout sécuritaire, qui s'imagine que tout le monde est méchant, tout le monde est mauvais, et donc du coup qu'il y a des voyous partout, que les petits jeunes finissent par devenir des délinquants. Faut arrêter les caricatures. Oui, il y a des personnes qui tombent dans la délinquance, ça arrive, mais c'est comment est-ce qu'on fait pour qu'ils n'y arrivent pas avant, en fait? Donc il y a 2 choses qui sont importantes pour moi. D'abord, et je l'assume, c'est faire le choix d'avoir une police municipale d'élite. Une police municipale d'élite, c'est une police municipale plus importante, plus nombreuse, formée, armée correctement, qui soit active pour faire de la proximité et pas de la répression à outrance. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir une police qui soit sur le terrain. Et ça existait par le passé. Elle était là, elle écoutait les commerçants, elle échangeait avec les habitants, elle était repérée, elle était connue, il y avait des têtes. En fait, des gens connaissaient les têtes.
Malheureusement, on va peut-être aborder une question que je vous avais déjà posée quand je vous avais reçu pour notre interview. C'est qu'à l'époque de Nicolas Nicolas Sarkozy, en 2002, nous a sorti la phrase de « Le FNIC n'est pas là pour jouer avec le jeune », etc., etc. Du coup, on avait changé cette vision, mais vous avez raison, ça avait existé.
Ça a existé et ça avait fonctionné en fait. Parce qu'aujourd'hui, la problématique, c'est que les jeunes, notamment quand ils voient un flic qui arrive dans un quartier, bah, ils en ont peur en fait. Ou alors ils le méprisent. Ou alors... Et en fait, on a perdu ce rapport de un policier, il est là pour nous protéger. Il n'est pas là pour nous réprimer, il n'est pas là pour nous fliquer, il n'est pas là pour uniquement nous contrôler, il est là pour nous protéger. Et quand on protège, ça passe par de la proximité. Et c'est là où ça va de pair avec un autre sujet, et on va en parler certainement après. C'est le rôle de la médiation. Le rôle de la prévention, le rôle de la sensibilisation dans les quartiers, mais en même temps pas que dans les quartiers, partout aujourd'hui, partout c'est essentiel.
C'est aussi ça aussi, parce que même si cette émission elle est entre guillemets faite pour que vous décliniez votre vision et vos propositions sur les quartiers et le monde associatif, quand je dis les quartiers, je parle des quartiers populaires, en l'occurrence les QPV, mais c'est pas que ça, parce que moi, ce que je veux faire aussi à travers cette émission, à travers le fait que je reçois des candidats, c'est de vous permettre de développer, de me donner une vision sur des sujets concrets, d'où le fait de poser cette question, parce que la tranquillité publique, et on peut aussi parler justement de votre proposition sur l'allumage le soir pour l'éclairage public, c'est aussi intéressant parce que c'est pas une question que de sécurité, c'est aussi une question de personnes malvoyantes ou personnes âgées qui ne voient pas dans la rue et qui ont peur, et peut-être aussi que le fantasme de l'insécurité, à travers le fait de ne pas avoir de lumière, on se sent pas forcément rassuré aussi.
Nous, ce qu'on veut, c'est une ville qui protège. Une ville qui protège ses habitants et qui protège le quotidien. Ça passe en effet par les sujets de sécurité, ça passe aussi par l'accompagnement des personnes vulnérables, ça passe par la solidarité, ça passe par la fraternité, ça passe par les écoles, par l'éducation. On n'a pas trop parlé du périscolaire, mais ça en fait partie. Le périscolaire, il y a plein de choses à faire, on va en parler après. On en parlera après. Mais il y a plein de choses à faire là-dessus. Et forcément, quand on veut une ville qui protège, elle doit protéger partout. Et vous avez évoqué la question de l'éclairage. Ça fait depuis 2020 que l'éclairage a été éteint dans la moitié de la ville à peu près. Il n'est pas normalement dans les quartiers QPV, mais parfois il est malgré tout défaillant et donc c'est pas idéal. Mais normalement, il est censé être allumé dans les quartiers QPV. Mais la problématique, c'est pas uniquement le sentiment de peur quand on se balade dans la nuit noire. C'est aussi que c'est dangereux en fait pour les seniors qui voient pas où mettre les pieds, les actifs qui partent travailler à 3h du matin parce qu'ils prennent une garde à l'hôpital à 5h30. Tout ça, c'est pas normal. Et donc on doit faire de la sécurité un vrai enjeu aujourd'hui, mais un enjeu qui soit un enjeu de proximité, d'écoute et de dialogue avec les habitants. D'où le fait d'avoir une police municipale d'élite de proximité, d'où le fait de renforcer les moyens de médiation, les moyens de prévention et les moyens d'accompagnement des jeunes.
Eh bien, je vous remercie pour cette réponse sur cette thématique. Nous allons maintenant passer à l'école et au périscolaire.
Super. Le mix de toutes les cultures. 99.1.
Quelle est la vision de Marine Caron et de ses candidats sur le monde de l'école primaire?
L'école primaire.
Et maternelle.
Maternelle et élémentaire. C'est essentiel, l'école. L'école, c'est ce qui doit permettre de favoriser l'égalité des chances, qui doit permettre de favoriser la réussite éducative. C'est ce qui doit permettre de faire du lien social et de permettre à chaque enfant de grandir et de devenir la femme ou l'homme qui sera demain, le citoyen de demain. Nous, on fait de l'école une priorité pour nos familles, parce que c'est en lien aussi avec la parentalité dont on a parlé tout à l'heure. Mais bien sûr, il y a deux types de responsabilités. C'est-à-dire que la ville, elle a comme responsabilité, et c'est important de le redire, à la fois le bâti de l'école, ainsi que tout ce qui est périscolaire. Sur le bâti, nous, on annonce très clairement un plan Ambition École, 50 millions d'euros pour rénover énergétiquement nos écoles. Il ne s'agit pas uniquement de dire on va en construire des nouvelles, il s'agit aussi de l'existant, là où il y a des classes où il fait 9 degrés au mois de janvier, 14 degrés au mois d'octobre. Comment est-ce qu'on rénove mieux ces cours d'école? On a renaturé, c'est une chose, ok, c'est bien. Mais on a oublié qu'en même temps, on avait des écoles qui étaient mal isolées, qui étaient mal chauffées. Et donc ça, c'est une priorité pour nous parce qu'il faut des conditions dignes. À la fois pour les enfants, pour les professeurs et pour tout le personnel d'éducation. Et enfin, il y a le périscolaire. Le périscolaire, c'est un outil d'égalité des chances. C'est un outil d'accompagnement des enfants. C'est un outil d'émancipation aussi. Sauf qu'aujourd'hui, le périscolaire, c'est une garderie. Et en fait, on n'a pas besoin d'une garderie. Dans ce cas-là, on prend une nounou, elle va à la maison, elle fait la garderie. On a besoin d'avoir, avec le périscolaire, un outil qui permet à nos enfants de découvrir plein de choses. Donc nous, on a très clairement tout misé, et pas tout misé, il y a d'autres choses, mais en tout cas, on a mis un gros focus sur le périscolaire. Le périscolaire, c'est avoir des lieux où on fait vraiment de l'accompagnement éducatif, culturel, sportif. C'est avoir un sportif d'un club professionnel, je sais pas, le hockey, le foot ou le basket, qui parraine une école et qui vient dans l'année rencontrer les écoliers pour parler avec eux, pour présenter ce que sont les valeurs du sport, pour pratiquer avec eux, pour créer des liens comme ça. C'est avoir des écoles qui sont aussi en lien avec des résidences seniors, des résidences autonomie, des EHPAD, pour créer des moments intergénérationnels et partagés, pour comprendre que la solidarité, elle se vit les uns avec les autres. C'est aussi créer dans les écoles des résidences d'artistes, par exemple, pour pouvoir faire que la culture, on la fasse vivre au quotidien. C'est dans le périscolaire, accompagner les jeunes à créer des projets liés à la citoyenneté. Oui, parce qu'on doit être fier d'être français, ou en tout cas de vivre en France, et donc c'est aussi transmettre ces valeurs-là, les valeurs républicaines. Et puis, c'est à titre d'exemple deux choses qui nous sont essentielles pour nous. Un programme qu'on a proposé qui s'appelle « Tous en selle dès la maternelle », c'est-à-dire aujourd'hui, à la fin du primaire, vous passez votre brevet pour avoir votre vélo, mais il faudrait commencer dès la maternelle en fait, c'est pas le cas aujourd'hui. Donc dès la maternelle, on veut que les enfants ils puissent monter sur un vélo, comprendre ce qu'est un vélo, comment est-ce qu'on se déplace avec un vélo, que ce soit un vélo, une draisienne, enfin avec des roues, des petites roues, peu importe. Mais comprendre ce qu'est un vélo, parce que c'est une question de santé, c'est une question de sécurité, c'est une question de mobilité. Et puis ensuite, un autre élément qui est essentiel sur la réussite, c'est l'aide aux devoirs. Aujourd'hui, il y a trop d'enfants qui, quand ils rentrent chez eux, leurs parents, ils sont démunis, ils ne savent pas comment les accompagner. Et donc, du coup, l'aide aux devoirs, c'est aussi un élément de réussite scolaire, de réussite éducative. Et on a besoin de mettre un coup de pouce là-dessus dans toutes les écoles de la ville.
Et moi, j'ai envie de dire aussi que, enfin, vous allez sans doute nous en parler, mais comment accompagner les animateurs BAFA, les animateurs périscolaires, dans la gestion d'enfants, dans l'accompagnement d'enfants en situation de handicap, dans l'accompagnement du quotidien, leur donner des formations en interne, peut-être aussi pour la gestion du quotidien.
Excellente question.
Peut-être aussi mieux les reconnaître, parce que malheureusement, quand on est animateur en périsco, on n'est pas forcément bien payé, on n'est pas forcément, notre travail n'est pas forcément bien reconnu, c'est-à-dire qu'après, il faut le valoriser dans son CV, et c'est pas forcément facile, parce que des futurs employeurs considèrent ça comme un job étudiant, alors que c'est pas que ça, parce qu'ils s'occupent quand même de la jeunesse de France et de notre pays. Donc comment justement accompagner les animateurs futurs et actuels de la mairie de Rouen?
C'est un sujet aujourd'hui, parce que les animateurs, il faut les fidéliser aussi, il faut leur donner envie de travailler. Aujourd'hui, être animateur, c'est un job précaire, hein, faut le dire. Vous venez travailler le matin tôt, vous êtes là le midi et vous êtes là le soir. En gros, vous n'avez pas de continuité professionnelle. Souvent, c'est des jeunes qui font leurs études en même temps, donc ils cumulent les petits jobs, ils cumulent les trucs mal payés, pas de reconnaissance. Et en effet, il y a un vrai sujet sur la formation de nos animateurs BAFA aujourd'hui, nos animateurs périscolaires, notamment sur la question du BAFA, en effet, parce que tous n'ont pas le BAFA. Et donc, il faut les accompagner pour obtenir le BAFA. C'est un outil qu'ils pourront utiliser dans leur vie plus tard aussi, hein, pour aller au-delà de l'animation en périscolaire. Il faut les former sur des questions essentielles. Comment est-ce qu'on accueille des enfants en situation de handicap? Comment est-ce qu'on est vigilant vis-à-vis des violences sexistes et sexuelles? Comment est-ce qu'on les forme par rapport au harcèlement scolaire aussi? Comment est-ce qu'on les forme sur les valeurs républicaines pour les transmettre aux enfants? Il y a plein de formations. Et en plus, un animateur en périscolaire, s'il est formé à tout ça, c'est une vraie richesse professionnelle pour lui plus tard en termes d'insertion dans la vie active. Donc c'est essentiel. Et il faut le dire aussi, qu'ils soient plus nombreux. Aujourd'hui, on est en deçà des effectifs moyens qui sont demandés par l'État. Et donc, on manque d'animateurs pour encadrer. Ça crée des vrais problèmes, hein. Parce que il y a des écoles sur lesquelles on a été alerté où il y a des punitions collectives. Il y a des enfants qui ne veulent plus aller en périscolaire parce qu'ils en ont peur. Il y a des manques d'hygiène à certains moments. Il y a de la vraie pression parce que il y a des problèmes en nombre d'effectifs. Donc ça, c'est pas la faute des animateurs qu'il faut blâmer, c'est la faute des moyens et de l'accompagnement qu'on n'y met pas.
C'est peut-être aussi, je pense que vous le savez, mais quand un animateur est engagé au mois de septembre et qu'il touche que son salaire fin octobre,
bien sûr.
Il y a peut-être, enfin,
bien sûr.
Quand je dis son salaire, je suis gentil parce que c'est la formulation officielle, mais voilà, sa rémunération, comme vous dites, où ils sont précaires parce qu'ils font peu d'heures et du coup, on touche 300 euros que fin octobre, alors qu'on est censé être jeune, qu'on a peut-être un logement étudiant à payer. il y a peut-être aussi quelque chose à voir.
Ce décalage-là de rémunération, il est pas tolérable, il est pas acceptable. C'est la RH qui doit les ressources humaines de la ville de Rouen qui doivent revoir leur procédé et faire en sorte que quelqu'un qui a travaillé au mois de septembre, son salaire, il le touche au 1er octobre. Enfin, je veux dire, il y a pas de sujet là-dessus. La ville, elle a des situations comme celle-ci où elle est en échec. Il faut le dire, il faut le pointer du doigt, il faut le corriger. C'est pas possible. Un jeune, il a besoin quand il travaille, quand il a un petit job, d'être rémunéré en temps et en heure. Sinon, ça a des vraies implications sociales, économiques et de précarité derrière. Et ça, c'est pas possible.
Et sur la formation des animateurs, peut-être aussi se mettre en lien avec ce qu'on appelle l'école des éducateurs, l'IDS, ou des associations parentalité. Enfin, je la retrouverai, je la mettrai dans l'annonce de l'émission, mais une association justement qui gère aussi les parents et les éducateurs, 76, qui eux aussi peuvent justement aider la municipalité à mieux former les animateurs,
absolument,
pour éviter les punitions, absolument, et leur donner le contexte. Quand tu es animateur, tu es aussi un éducateur, tu es aussi un exemple pour les enfants,
absolument, tu dois aussi, absolument, savoir.
Oui. Mais si on te donne pas les solutions.
C'est-à-dire qu'un animateur aujourd'hui, il est recruté, on lui dit super, t'es recruté, demain tu vas dans telle école. Mais c'est quoi